J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire.
Tranche de vie. Petit vagabondage dans nos existences.
Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous...
Chers auditeurs, aujourd'hui, le 7 juin 2023, je suis en présence du docteur Frédéric Vonnet, qui est médecin, coordonnateur et gériatre à l'EHPAD de l'Effet Libre de l'hôpital de Périgueux. Le docteur Vonnet a accepté de nous parler de ce qui nous affecte tous, à savoir ce lent processus de dégradation physique et intellectuelle qui nous atteint lorsque nous prenons de l'âge. Le fameux écrivain, un fameux auteur des Voyages de Gulliver, Jonathan Swift, avait bien résumé la situation en disant « Tout le monde voudrait vivre longtemps, mais personne ne voudrait devenir vieux ». Et effectivement, le docteur Vonnet se préoccupe des personnes qui sont de plus en plus âgées. Quand on considère que Jonathan Swift est mort à 78 ans, que très peu de gens atteignaient cet âge lorsqu'il vivait, il y a près de 3 siècles, et que nous sommes plus d'un million et demi à avoir plus de 85 ans dans notre pays, que nous serons plus de 4 millions et presque 5 millions dans 30 ans, ça invite à se demander comment on peut ralentir effectivement ce processus et l'encadrer. Donc merci au docteur Vonnet de parler de ce qui est venu, ce qui est sa spécialité médicale, à savoir la gériatrie. Docteur Vonnet, comment êtes-vous venu à cette spécialisation ?
Par hasard, par un concours de circonstances, médecin... venant d'Ordogne dans les années 1990, c'était un petit peu le début de la gériatrie. On commençait à s'intéresser à l'état de santé des personnes qui avançaient en âge. Jusqu'à présent, on disait « il est vieux, il est gâteux, il est décrépit, je peux vous faire plein de synonymes comme ça ». Et en fait, dans les années 1990, alors on le doit à un médecin qui s'appelle le professeur Huguenot, un professeur de gériatrie, on a commencé à s'intéresser à cette médecine des personnes en avancée en âge parce qu'il se passe vraiment des choses différentes lorsqu'on dépasse 60, 75, 80 et bien sûr bien au-delà. Et c'est pas uniquement de regarder le temps qui passe qui va nous aider, nous médecins, à accompagner au mieux les personnes en avancée en âge. Alors j'ai remarqué que vous parliez de ce qui nous affecte tous. On a souvent une vision négative de ces avancées en âge. Et le premier travail que l'on a à faire les uns et les autres, parce que je souhaite vraiment à tout le monde de vieillir, parce que si on ne vieillit pas, c'est qu'on meurt avant. Et Dieu sait si quelquefois on est concerné par la mort de proches jeunes. Je souhaite donc à tout le monde de vieillir, alors, si possible, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un petit peu ça l'apanage de la gériatrie, c'est d'évaluer une personne qui est en avancée en âge et de l'accompagner dans ses processus de vieillissement pour lui éviter au maximum de mal vieillir. Hein, souvent, c'est des reproches qu'on se fait entre amis ou quand on parle des vieux qu'on connaît dans la famille. Celui-là, il n'a pas bien vieilli. Alors, c'est ce que peuvent dire tous les jeunes au sujet des plus âgés. Mais la vieillesse est quelque chose de merveilleux, vous vous rendez compte ? On a connu plein de choses, on connaît encore plein de choses. Par contre, bon, c'est vrai, quand on se réveille un petit peu le matin, on a un petit peu plus de douleur, on est un petit peu plus coincé, on commence à souffrir ou à être concerné par ce qu'on appelle la perte des capacités, parce que c'est ce qui est le signe de l'avancée en âge, c'est la perte des capacités. Mais il faut savoir que cette perte des capacités, elle commence très très jeune. Les sportifs, J'entendais les Télisman l'autre jour qui disaient au moins 38 ans, je vais peut-être faire mon dernier Roland-Garros. Hein, je commence à être un petit peu vieux, là, je tiens plus, j'ai plus le souffle sur le court. Mais c'est un petit peu ça, en fait. Et ce champion de tennis est en train d'expliquer comment il n'avait plus la même forme à 38 ans que quand il avait commencé à être champion de tennis, probablement à 20 ans. Hein. Donc c'est un petit peu ce qui nous guette tous, c'est de perdre nos capacités ou certaines capacités, mais on a des moyens quand même de les maintenir au mieux de leur forme pendant très longtemps si on prend la peine de s'écouter un petit peu et de faire les bons choix au bon moment.
Vous avez une approche formidablement optimiste de votre travail et c'est très bien, mais enfin, vous ne pouvez pas nier quand même, vous l'avez évoqué, que prendre de l'âge, c'est aussi affronter ce que les Espagnols appellent los achaques de la edad, c'est-à-dire les ennuis, les gros, les petits, puis les gros ennuis de l'âge.
Oui, bien sûr, mais c'est un petit peu pour ça. Je pense que moi, j'ai beaucoup appris auprès des personnes en situation de handicap, et en particulier de handicap physique. Et beaucoup de personnes, puis il y en a beaucoup qui sont très 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 célèbres et médiatiques, et c'est très bien, c'est tout à leur honneur, j'ai oublié leur nom, mais pourtant on les voit sur les scènes, il y en a même qui font des spectacles, qui expliquent même qu'on peut continuer, qu'on continue à être vivant, qu'il faut s'adapter à notre nouvelle vie au fur et à mesure. Alors, bon, quand ils ont un handicap physique suite à un accident, c'est souvent brutal et c'est plus complexe. Donc là, l'autre jour, j'écoutais le sociologue Michel Billet qui disait vieillir, il utilisait ce terme, vieillir, c'est apprendre à courir lentement. Et je trouvais que c'est une belle phrase parce qu'en fait, en vieillissant, il ne faut pas se dire je ne vais plus pouvoir courir. Par contre, apprendre à courir lentement. Donc il faut apprendre, je donne cet exemple aussi aux étudiants, il faut apprendre à faire la fête, à boire un petit verre de l'amitié, mais peut-être de manière moins importante que quand on faisait troisième mi-temps de rugby. Il faut s'apprendre à faire des excès, parce que ce sont les excès qui rythment notre vie épicurienne et de plaisir. Le plaisir, ça nous amène à plein de sécrétions de bonnes composantes chimiques. Mais il faut apprendre à faire des excès modérés. Je prends toujours l'exemple de Jeanne Calment, qui est la doyenne de l'humanité à plus de 120 ans. Elle était en établissement, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, les capacités nous amènent forcément à devoir être accompagnées. Par contre, elle prenait son petit verre de Porto régulièrement. Et je crois que c'est un petit peu ça. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire « ça y est, j'ai tel âge, je ne vaux plus rien, j'arrête de vivre ». Surtout que souvent, on ne s'arrête pas vraiment de vivre, et heureusement, mais on s'arrête de vivre adapté à notre situation corporelle. En fait, c'est également Edgar Morin qui disait ça, la difficulté du vieillissement, c'est que dans notre tête, on a tous les âges. Et qu'en se regardant le matin dans la glace, on voit uniquement l'âge de son corps. Ou en se réveillant le matin, on a uniquement l'âge de son corps. Mais dans la tête, on a tous les âges, parce qu'il y a des jours où on a envie de rigoler, on est comme un gamin, on est comme un adolescent, et puis voilà. On peut être amoureux à tous les âges, ça c'est très très important. Et à ce moment-là, on se sent comme un gamin, où ça nous rappelle nos premiers amours. On peut avoir envie de faire la fête, et puis à l'inverse, on peut être triste. Alors on a tous les âges quand on avance en âge, mais par contre, notre corps, lui, il n'a qu'un seul âge, et avec une perte des capacités. Alors c'est un petit peu la différence entre chacun, c'est pour ça que souvent on va regarder oh, lui il a bien vieilli, moi je peux pas, etc. C'est vrai qu'on vieillit pas tous pareil. 5 à 10% de la population aura ce qu'on appelle un vieillissement réussi, c'est-à-dire vraiment avec le maximum de capacité pour l'âge, sans trop de problèmes de santé, et on a surtout un regard porté sur les personnes qui vont vieillir dans la dépendance, alors que ça correspond également à moins de 25% de la population. Et on a surtout l'immensité des personnes qui, en avançant en âge, perdent des capacités et surtout sont ce qu'on appelle dans la fragilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient vigilants, parce que peut-être qu'ils n'ont pas repéré qu'ils perdaient un petit peu une certaine capacité et qu'en l'entretenant, ils vont peut-être aller vers la population des personnes qui vont vieillir de manière réussie.
Donc si je vous ai bien compris, il faut arriver à concilier le mieux possible le vieillissement chronologique, le vieillissement biologique et le vieillissement psychologique.
C'est ça, il faut trouver un savant équilibre entre ces trois vieillissements, sachant que le corps, entre guillemets, mais depuis qu'on est tout jeune, le corps, on le subit, hein, c'est l'enveloppe qui nous accompagne tout le long de notre existence. Et après, le psychologique, là, on peut jouer dessus, parce qu'effectivement, si on se sent vieux à 35 ans et qu'on a vraiment l'impression qu'on perd tous les jours, on va avoir du mal à être positif. Hein. Et puis l'enveloppe sociale également, on a plein d'enveloppes, hein, parce que un footballeur ou un tennisman qui se sent comme à la retraite à 38 ans, et quelquefois il faut qu'il rebondisse, et il y en a quelques-uns qui n'y arrivent pas, hein, qui ont du mal. Et puis à l'inverse, on a des personnes, et on le voit, on cite toujours les mêmes chercheurs, artistes, parce qu'ils font souvent des métiers passionnants, ils sont très investis, et au niveau psychologique et social, ils se sentent bien. Le corps suit ou pas, ça c'est pas toujours évident, mais on a quelques très très beaux exemples de personnalités publiques qu'on envie régulièrement, bien sûr.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure cette sagesse à laquelle nous sommes presque tous conduits en vieillissant dans nos comportements, mais vous avez aussi évoqué quelque chose d'important, c'est-à-dire le maintien de l'activité. Et donc, est-ce que, avec l'expérience que vous avez, est-ce que ça vous paraît essentiel à un bon vieillissement ?
Oui, le maintien de l'activité est essentiel à un bon vieillissement, ne serait-ce que ce qu'on appelle l'activité physique. Et ça, c'est le plus important à notre époque, sachant que l'activité physique, ce n'est pas du sport, c'est juste l'être humain. On est là pour bouger tous les jours. Alors, vous connaissez, il faut faire tous les jours au minimum 6 000 à 10 000 pas pour bien se comporter. Il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour les faire. En fait, il faut se préparer à un bon vieillissement en continuant, en luttant contre une sédentarité qui nous est favorisée, qui nous est apportée par le canapé et l'ère du numérique. Il faut sortir du canapé et du tout scotché à l'écran, et il faut bouger, il faut aller marcher, il ne s'agit pas de se mettre à un sport de haut niveau lorsqu'on n'en a jamais fait, mais marcher est la meilleure activité physique que l'on a. Mais après, l'activité, bien sûr, en complément de cette activité essentielle qui est de mobiliser son corps, c'est l'activité que l'on va choisir. Si vous aimez jardiner, vous jardinez, mais si vous n'aimez pas jardiner, surtout ne vous mettez pas au jardinage. Et à l'inverse, si vous aimez promener, flâner au bord d'une rivière, en particulier en Dordogne, n'hésitez pas, ça va vous maintenir en pleine possession de vos moyens.
Est-ce que dans votre rôle de gériatre, il vous arrive de conseiller comme ça vos patients, d'essayer de choisir telle ou telle activité en rapport peut-être avec la profession qu'ils ont exercée ou complètement différente ?
Alors, comme j'exerce principalement en maison de retraite, en EHPAD, c'est vrai que l'activité qu'on va proposer au maximum aux personnes, ça va être essentiellement du mouvement, de la marche ou de l'activité physique adaptée. Alors, il ne faut pas hésiter à travailler avec des professionnels, hein, qu'on appelle les professeurs d'activité physique adaptée, hein, qui vont vous conseiller justement sur ce que vous pouvez faire. Alors après, en tant que médecin, il faut arriver à donner envie à la personne que l'on a en face d'oser. Souvent, on n'ose pas, on se dit c'est pas pour nous, et puis on est tous un peu pareil. On va rechercher le plaisir de ne rien faire aussi, quelquefois. Parce que c'est pas toujours évident de trouver du plaisir dans une activité que l'on n'a jamais eue ou que l'on a abandonnée depuis des années. Mais bien accompagné, il y a des associations, de plus en plus d'associations qui existent. Dans le moindre petit village en Dordogne, vous pouvez avoir des associations qui vont vous accompagner. Et puis, ça ne va pas forcément être la marche ou la marche nordique ou courir ou aller faire des randonnées. Ça peut être aussi se mettre autour d'une table et faire de l'énoisage. Mais parce que faire de l'énoisage, en Dordogne, c'est important, puis on va se mettre à bouger ses membres, ses mains, c'est faire n'importe quelle activité, pourvu que ce soit une activité du mouvement. Voilà, ça c'est très important. Sortir de cette sédentarité, si nos aïeux avaient eu le système de santé actuel, compte tenu des métiers qu'ils faisaient, ils avaient une espérance de vie formidable, et d'ailleurs certains qui avaient une bonne santé et une activité physique importante ont dépassé tous nos espoirs en matière de vieillissement. Donc il ne faut pas hésiter à bouger.
Alors, en tant que gériatre, vous avez probablement vu dans votre carrière des progrès dans la médecine spécialisée, appliquée aux personnes de grand âge. Quels sont les progrès qui, à votre avis, ont été les plus importants et qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux ?
Les progrès les plus importants, je dirais, ce sont ce qui n'est pas neutre, vraiment la prise en charge de toutes les maladies cardiovasculaires. À la fois en prévention, mais également en traitement. C'est quand même ce qui concerne plus d'une personne sur deux, hein, très très vite. On a fait d'énormes progrès en suivi d'hypertension artérielle, on a fait d'énormes progrès en prévention de la maladie coronaire, mais également en accompagnement de toutes les maladies cardiovasculaires. On fait pas mal de traitements, alors je parle du curatif, on fait pas mal de traitements sans ouvrir le corps et le cœur. Hein. Avant, on avait un infarctus, il fallait qu'on vous ouvre le corps pour vous faire une transplantation, et un pontage coronarien, comme on disait. Maintenant, on fait beaucoup de traitements dits non-invasifs. Ça a vraiment révolutionné la médecine cardiovasculaire. Et le plus important, c'est vraiment la prévention et l'anticipation des problèmes cardiovasculaires. Après, il y a des pathologies où on a fait moins d'avancées que d'autres, et en particulier sur tout ce qui est troubles cognitifs, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer et d'autres, où là, pour l'instant, il y a des avancées, mais j'en parlerai pas parce qu'elles peuvent paraître minimes pour la plupart des gens. Il y a des avancées régulières, et je pense que dans les 10 à 15 ans, on devrait voir arriver pas mal de nouveautés sur les maladies de la mémoire. Par contre, on a fait d'énormes progrès dans la reconnaissance de ces maladies, dans les diagnostics et dans l'accompagnement. Et c'est pas neutre, parce que beaucoup de personnes étaient accompagnées avant de manière insatisfaisante ou pas adaptée, voire pas du tout, tandis que l'accompagnement est quand même de mieux en mieux fait, et c'est important, ne serait-ce que pour que les personnes aient conservé leur dignité dans ce qui peut être important, ce qui est la perte des fonctions cognitives.
Est-ce que le fait que les personnes d'un certain âge actuellement restent un petit peu souvent mises à l'écart d'un certain nombre d'activités qui sont des possibilités formidables qui sont offertes à tout le monde maintenant, de connaissances, d'accès à la connaissance, et subissent ce qu'on appelle quelquefois l'électronisme. Est-ce que ça vous paraît important, ou est-ce que vous pensez qu'on peut très bien s'en passer ? Évidemment, tout dépend du niveau culturel des personnes intéressées, mais malgré tout, ça devient un problème très, très grave, puisque certaines personnes ne peuvent plus, toutes seules, faire un certain nombre de démarches, puisque ces processus numériques se généralisent à tel point qu'il ne peut plus y avoir accès, sinon n'ont pas été entraînés.
Oui, de ce dont vous parlez, l'électronisme, alors il faut... Je trouve que c'est quelque chose de très important, au même titre que l'illettrisme. Il faut enfoncer ou pousser une porte ou jeter un pavé dans la mare. Ça ne concerne pas uniquement que les personnes en avancée en âge. Lorsque vous travaillez dans des associations, dans certaines communes ou certains villages, et puisque vous êtes basé à Chamiers, je prends l'exemple du centre social, il y a des personnes de tous âges qui sont bloquées dans leur vie par l'électronisme. On peut se souvenir du film de Ken Loach, où il parlait de cet électronisme d'une personne qui était au travail à Londres, hein, il y a quelques années. Moi, Michael Black, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça concerne vraiment toute une partie de la population, donc il faut bien sûr accompagner pour que cet électronisme ne soit pas une fracture et surtout une limitation de l'accès aux droits et à la vie, en se disant que ça doit faire partie des apprentissages de base qui concernent toute la population. Et de la même manière qu'il est plus facile d'apprendre à lire à un jeune enfant, il est plus facile de lui apprendre à utiliser tous les outils numériques, sachant que savoir utiliser un smartphone, ce n'est pas pareil que de remplir sa déclaration CAF sur Internet. C'est pas tout à fait, et beaucoup de personnes pensent qu'ils sauront et ils ne savent pas remplir une déclaration CAF ou à une demande d'allocation alors qu'ils savent utiliser un smartphone. Et donc les apprentissages sont plus faciles lorsqu'on est jeune, Et donc, ça sera plus difficile d'apprendre l'utilisation des outils numériques, quels qu'ils soient, au fur et à mesure où on vieillit. Mais c'est possible. On a eu des retours impressionnants sur l'utilisation des outils numériques en EHPAD, en maison de retraite. À l'occasion du confinement, on a vu que les tablettes qu'on confiait à des personnes, très vite, si on leur montrait le maniement, si on les accompagnait, elles savaient très très bien faire, ça ne les surprenait pas du tout. Et de la même manière que les générations d'avant sont passées à la télécommande de la télévision, beaucoup de personnes en avancé en âge sont en capacité d'utiliser tout ce qui est outils numériques. Par contre, la fracture numérique continuera à exister. Et je pense que ça, c'est plus un problème de société. Et comme tous les problèmes de société, ce sont les catégories socio-démographiques, sociaux et en fonction de l'âge, les catégories sociales ou les catégories d'âge, qui seront les plus vulnérables, qui seront les moins bien accompagnées. C'est ça qui est dommage dans notre société.
L'avenir de votre profession, comment l'envisagez-vous ? Est-ce que l'idéal qu'on proclame quelquefois en disant « voilà, on va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans, ça va être formidable, tout le monde restera jeune ou plus jeune beaucoup plus longtemps qu'auparavant », est-ce que ça vous paraît justifié ? Est-ce qu'il est, vraiment quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de souhaitable d'arriver à maintenir la mécanique, aussi bien physique que psychologique, à peu près en état pour atteindre des âges dont on n'a pratiquement pas idée maintenant?
Il y a deux questions dans votre question. C'est la question scientifique et la question philosophique. Alors, la réponse scientifique, c'est que beaucoup de notre corps vieillit, comme je vous disais, que ce soit les différents organes, les différentes fonctions. On arrive à peu près, les scientifiques, les chercheurs arrivent à savoir à peu près comment, et je pense, je vais répéter ce que j'ai entendu dans les différentes conférences scientifiques, d'ici une cinquantaine d'années, on aura vraiment trouvé pourquoi certaines cellules vieillissent et comment surtout on peut les empêcher de vieillir. Alors c'est toujours comme toutes les grandes découvertes du monde scientifique, il y aura le côté utile, c'est-à-dire que ça pourra permettre à des organes qui vieillissent prématurément ou qui vieillissent mal, pourra les accompagner pour un meilleur état de santé, une meilleure capacité. Et puis après, il y a ce rêve de l'immortalité, et puis l'immortalité sans vieillissement. Donc là, on approche de la philosophie. Est-ce que l'immortalité, ça ne sera pas un petit peu long, surtout vers la fin, comme disait le philosophe ? C'est autre chose. Mais en tant que médecin, ce qui me paraît important, comme tous mes prédécesseurs, c'est de véritablement accompagner les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, ceux qui n'auront pas un vieillissement de bonne qualité, ceux qui auront perdu leur capacité, de la même manière qu'on a pu dernièrement montrer qu'une personne qui était amputée arrivait à décider par lui-même de marcher avec une prothèse. Là, on voit le côté positif de tout ce qui peut être l'alliance de l'homme et de la machine. Nous, en tant que médecins, on raisonnera toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faudra toujours avoir une réflexion éthique à chaque fois qu'on sortira des chemins habituels. Mais en tout cas, tout peut être imaginé, et c'est ce qui est intéressant depuis que l'humanité existe.
Vous avez exercé, docteur Bonnet, des responsabilités à Coulonnier-Chamier, justement, au centre social que vous avez présidé longtemps. Est-ce que cet investissement social est une de vos manières d'échapper aux contraintes quand même qui sont très fortes de votre profession? Je vous pose cette question en l'abordant par ce que je sais de vos autres activités, mais est-ce qu'un gériatre comme vous, sans doute accablé de travail, peut avoir d'autres activités? Et quels sont vos violons d'Indre? Est-ce qu'il y a une vie après la gériatrie et la gérontologie?
Alors, heureusement, oui, je pense que c'est pour l'équilibre de tout être humain, il faut des bouffées d'oxygène, il faut des bouteilles d'oxygène. Notre métier de médecin nous amène à, comme d'autres métiers qui accompagnent les souffrances, nous amènent à rencontrer justement toute la journée des personnes en difficulté, qui souffrent et qui questionnent notre humanité, notre acceptation. Et il y a des moments où on a besoin de regarder la vie avec une autre focale, un autre point de vue. Et depuis que j'exerce pendant mes études et depuis que j'ai également pendant tout mon exercice, j'ai toujours eu différentes approches de l'humanité. Et je pense que approcher l'approche de l'être malade, c'est bien aussi de la mettre en perspective avec l'approche de ce même être malade, mais pas vu par le médecin. Et c'est souvent ce qui, dans mon investissement dans les associations, et de rencontrer les mêmes personnes que je peux voir en tant que médecin, mais de manière différente, ça m'a permis de toujours garder cette notion d'humanité et de ne pas voir que le malade en chaque être que je rencontre dans mon exercice. Et ça me paraît un équilibre souhaitable.
Quelquefois, vous oubliez le serment d'Hippocrate lorsque vous êtes en face d'un de vos patients et que vous ne voyez plus en lui que la femme ou l'homme avec son passé, avec ses problèmes qui peuvent être d'un autre ordre que physique et liés à l'âge.
Alors, je ne l'oublie pas, mais ça fait partie de la globalité. Quand je suis face à quelqu'un qui se présente à moi en tant que malade, patient, on va l'appeler comme on veut, il se présente à moi en tant que je viens vous voir, docteur, parce que j'ai besoin de vous en tant que médecin. Mais il se présente en tant qu'humain. Par contre, moi, quand je me présente à l'humanité, face à l'humanité, en tant que citoyen, ça me permet de mettre, comme je vous disais, de mettre en perspective l'humanité, de me dire que finalement, puis quelquefois on se croise d'un côté ou de l'autre, et de ne pas voir que des malades dans la vie, c'est bien, c'est très très bien. Et surtout de mettre en perspective finalement que l'humanité, elle est constituée de personnes qui ont des problèmes de santé, bien sûr, des problèmes de handicap, des problèmes sociaux, et ça donne une perspective de l'humanité beaucoup plus vaste, large, et c'est important. Moi, pour l'exercice de mon métier, c'est très important.
Vous avez évoqué rapidement votre fonction de citoyen. Alors justement, l'avenir des EHPAD, et mettons ça en perspective avec l'augmentation rapide de l'effectif des gens qui auront besoin des EHPAD et besoin de gens comme vous, est-ce qu'on va y arriver ?
Alors, l'avenir des EHPAD, je le disais encore tout à l'heure en réunion, l'avenir des EHPAD, c'est pas d'EHPAD. Quand vous avez presque 100% des personnes qui ne souhaitent pas être accueillies dans un EHPAD, en particulier pour la fin de leur vie, il est logique qu'on réfléchisse tous à un modèle où il y aura le moins possible d'EHPAD. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut, et c'est pour ça que je travaille aussi dans la prévention, et ça ne me gêne absolument pas, au contraire, de travailler pour qu'il y ait le moins possible de personnes qui aient recours à l'EHPAD, puisque tout le monde veut rester chez soi. Donc il faut vraiment améliorer l'accompagnement à domicile, pas dans n'importe quelles conditions, et du coup il faudra que nous fassions tous une acceptation de ce que c'est de rester chez soi lorsqu'on a une perte des capacités, parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie que l'aide à domicile rentre chez soi, et pourtant, s'il n'y a pas d'aide à domicile, quelquefois, lorsqu'on a plus de 90-95 ans ou qu'on a des problèmes de capacité, on ne peut pas rester chez soi en sécurité. Donc il va falloir qu'on réfléchisse au niveau organisationnel, mais aussi nous en tant qu'individus, sur qu'est-ce que c'est que de vieillir en perte de capacité à la maison. Et puis les EHPAD doivent faire ce qu'ils peuvent. Alors moi je dirais que les EHPAD feront ce qu'on leur permet de faire. Là, je vais rentrer directement dans l'actualité. Le débat sur le grand âge, il a disparu de l'actualité. Alors certes, il y a d'autres problématiques, hein, mais ça fait 30 ans qu'on nous dit d'une année, et puis on oublie 5 ans, puis on le redit une année, que le grand âge doit être une priorité de la nation. En tout cas, je ne sais pas si c'est une priorité de la nation ou pas, mais ça va concerner tout le monde. Donc à un moment ou à un autre, il faudra au moins qu'on se mette peut-être plus sérieusement autour de la table. Plus sérieusement, ça veut dire qu'on a besoin de moyens. Moi, je le dis en tant que professionnel, on ne peut pas nous demander en EHPAD de faire des choses de qualité sans moyens. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le plus grand scandale des EHPAD. Ce n'est pas les scandales qu'on a connus de grands groupes privés. Le plus grand scandale des EHPAD, c'est d'accepter que les EHPAD n'aient pas les moyens de travailler. Voilà, c'est ça qui me gêne le plus.
Docteur Venet, merci beaucoup de votre témoignage et de votre humanité.
J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais revenir. Les roues avancent, se rassemblent, s'enflancher en jambes. Le chantier des pensées qui semblent emmêlées. Je m'y connais sans délai.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Parce que je comprends quand je marche, faut que je marche. Parce que j'apprends quand je marche, faut que je marche. Parce que je pense quand je marche, parce que j'avance quand je marche.